Bonjour. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à un écrivain israélien pour la jeunesse qui a disparu au mois de juin dernier, en juin 2022. Il s'appelle Uri Orlev. Il est né en 1931 à Varsovie et donc est mort à Jérusalem cette année. Il se trouve que j'ai bien connu Uri Orlev lors de ses premiers séjours à Paris, puisque ses livres ont été traduits en français, ses livres pour la jeunesse, que je vais évoquer à présent. À sa naissance, il s'appelle Jerzy Henryk Orlowski et son surnom est Jurek. Jurek passe les premières années de la guerre dans le ghetto avec sa mère, Zosia, et son petit frère Kazik, ainsi que sa tante Stefa. Son père, médecin dans l'armée polonaise, est fait prisonnier par les Russes. Il ne reverra ses fils qu'en 1954 en Israël. Sa mère meurt assassinée dans le ghetto, et la tante Stefa parvient à faire passer clandestinement les deux frères du côté arien, non juif, où ils sont cachés un temps par des familles polonaises. En 1943, après la destruction du ghetto de Varsovie, grâce à des tractations passées entre les nazis et certains pays neutres moyennant finances, Stefa parvient à inscrire les enfants sur des listes du Yishuv juif de Palestine, c'est-à-dire de la population juive vivant en Palestine mandataire à cette époque. Ce qui leur vaut à tous trois d'être déportés dans le Sonderlager, le camp spécial de Bergen-Belsen, le camp des familles, où ils arrivent en juillet 1944 et d'où ils seront libérés en avril 1945. Uri et son frère embarquent alors pour la Palestine grâce à leur certificat d'échange palestinien. Uri Orlev est devenu écrivain. Il a publié plus d'une trentaine d'ouvrages pour la jeunesse et également de la fiction pour adultes. Il écrit aussi des scénarios pour la radio et la télévision et il est traducteur de littérature polonaise en hébreu, notamment Le petit roi Matthias de Janusz Korczak. Ses livres ont été traduits en 38 langues, du vietnamien à l'ourdou, en passant par l'albanais et le coréen. Il est lauréat de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le prix Andersen International en 1996, prix dont on a coutume de dire qu'il est un peu le Nobel de la littérature jeunesse, le prix Yad Vashem Bruno Brandt, le Premio Cento italien, le prix du meilleur livre cédé pour la jeunesse en Allemagne pour son roman « Cours sans te retourner », le prix Bialik en Israël. Ses ouvrages pour la jeunesse comportent aussi des albums pour les jeunes enfants, dont certains sont traduits en français. Ainsi, l'album édité aux éditions du Père Castor en 1998, « Grand-mère Tricot », ainsi également « Comme tu es grande, ma petite Louise » chez Actes Sud Junior. Et puis les romans plutôt destinés à la jeunesse, c'est-à-dire à partir de 10 ans, « Une île rue des oiseaux » chez Stock, « Le chant des baleines »,« Cours sans te retourner », »,« L'homme de l'autre côté », »,« Le royaume d'Alyosha ». On trouvera également, et j'y reviendrai, des poèmes de Bergen-Belsen, des poèmes écrits donc pendant cette année passée au camp, écrits en polonais et traduits par lui-même, par Uri Orlev, bien plus tard. J'ai oublié de mentionner d'autres ouvrages écrits en hébreu mais traduits de l'allemand. Baptiste et le lion, Baptiste ne veut pas se laver la tête, qui sont également édités chez Actes Sud Junior. Dans l'ouvrage autobiographique, non traduit en français en tout cas, Misra Kachol, le jeu du sable, Uri Orlev s'attache avant tout à décrire les jeux qui ont rempli son enfance et particulièrement les années de guerre. Il raconte comment ces jeux, qu'il inventait au fur et à mesure, les ont aidés, lui et son jeune frère, à surmonter les épreuves qu'ils ont traversées. Le livre s'adresse à son plus jeune fils, qui lui pose un jour la question brûlante. « Dis papa, comment as-tu échappé aux Allemands ?» Et Orlev écrit « Sur le coup, je ne sus que répondre. » Comment répondre en une phrase censée inclure tout ce qui s'était passé pendant 6 ans ? C'est alors que j'eus l'idée de cette fable que je lui ai racontée. Quand j'étais petit, on jouait à un jeu de prédiction qui s'appelait « Combien d'enfants auras-tu ?» On y jouait dans le bac à sable. Le meneur de jeu prenait une poignée de sable qu'il jetait en l'air et sur le peu de sable qui retombait sur le dos de sa main, il disait « Voilà le nombre d'enfants que tu auras. » Mais ce n'était qu'un début. L'enfant ramassait ce petit tas de sable au creux de sa main et à nouveau le lançait en l'air en disant « Voilà ceux qui vont se perdre dans la forêt. » Et cette fois, il s'agissait du sable retombé par terre, c'est-à-dire presque la totalité. Le meneur de jeu poursuivait, recueillant le sable alternativement sur le dos de la main ou au creux de sa paume, en annonçant comment étaient morts les enfants tombés à côté sans trouver d'abri ou de refuge. Tant et tant s'étaient fait écraser par un tram, ou bien étaient morts du choléra, kidnappés pour jouer dans un cirque, noyés dans la mer, électrocutés, tombés du toit, tombés dans un puits, morts dans un incendie, un tremblement de terre, empoisonnés, étouffés d'avoir trop mangé, etc. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus au creux de sa paume qu'une 20aine de grains de sable, et c'était le nombre d'enfants qu'il aurait. J'ai emmené mon fils au bac à sable et lui ai montré comment on joue à ce jeu. Ensuite, je lui ai expliqué que les Allemands nous avaient lancés en l'air, entre guillemets, à plusieurs reprises, et que chaque fois des gens étaient morts, mais que nous, mon frère et moi, on avait chaque fois atterri en lieu sûr, et c'était chaque fois une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. J'écris « aventure » car je me considérais toujours comme le héros d'un récit d'aventure qui finirait forcément bien. Ainsi, le jeu va devenir rapidement une composante vitale de la vie du petit Jurek dans le ghetto. Puis, dans les cachettes où ils se sont réfugiés dans la Varsovie arienne. S'il invente ces jeux aussi facilement, c'est parce qu'il est un lecteur invétéré, même avant la guerre. Je le cite. « Lorsque j'allais à la bibliothèque, j'arrivais toujours avec ces deux questions. Est-ce que le livre est illustré ? Est-ce qu'il fait peur ? Et si ces deux conditions étaient réunies, je prenais le livre. J'adorais les livres de guerre et d'aventure qui font se dresser les cheveux sur la tête. » J'aimais les livres où les héros, adultes ou enfants, connaissent de nombreuses mésaventures et souffrent énormément jusqu'à ce que tout revienne dans l'ordre. Un livre qui finissait mal me remplissait d'un frisson que je ressentais encore longtemps après avoir terminé ma lecture. Mais je n'ai jamais demandé à la bibliothécaire de me raconter la fin d'une histoire, de peur de gâcher le plaisir que j'avais à ressentir cette tension. J'étais prêt à prendre beaucoup de risques dans mes lectures. Et plus je lisais, plus j'étais jaloux des héros de mes livres. Pourquoi est-ce qu'à moi, il n'arrive jamais rien ? C'est alors que la guerre a éclaté. Mais je n'ai pas tout de suite compris que cela m'arrivait à moi aussi. Fin de citation. Uri, ou plutôt Jurek, commence alors à inventer ses jeux. Les marches qui permettent de passer d'une pièce à l'autre deviennent des citadelles. Le défenseur se tient le dos contre les robes maternelles accrochées derrière la porte et l'assaillant tente de le déloger de sa marche citadelle. Dans la rue, il ne veut pas se faire dépasser par les piétons. Il devient lui-même une voiture et essaye, lui, de dépasser tout le monde. Dans les maisons abandonnées du ghetto, il cherche des livres qu'il n'a pas encore lus. Ensemble, avec son jeune frère, ils mènent tous deux leur « jeu de la guerre » pendant 6 ans. Ils sont chacun à la tête d'une grande armée. La nuit, ou dans un lieu obscur ou une cachette, ils jouent à se raconter ce qu'ils font chacun avec leur armée. De jour, installés par terre, ils ont des soldats de plomb, ou des pièces de jeux d'échecs, ou encore d'énormes piles de cartes à jouer trouvées dans les appartements vides et qui leur servent d'armée. Les noms des héros sont empruntés aux livres lus. Ils sont tous présents. Le général, capitaine Nemo, Socrate, Napoléon, Washington, Joshua bin Nun, le Josué de la Bible, s'emparant de Jéricho. L'un des jeux consistait à se dire que la guerre et la Shoah n'existent pas. Je recite. « Ce n'est qu'un rêve que je suis en train de faire. En fait, je suis le fils de l'empereur de Chine et mon père, l'empereur, a ordonné de placer mon lit sur une grande scène. Autour de moi, il a fait asseoir 20 sages mandarins. On les appelle ainsi car chacun d'eux a une mandarine attachée à son chapeau. Mon père leur a donné l'ordre de m'endormir et de faire en sorte que je fasse ce rêve, afin que, le jour venu, lorsque j'hériterai de son trône, je sache combien les guerres sont mauvaises, ce que c'est que d'avoir faim, que d'être orphelin, afin que jamais je ne fasse la guerre. » Mon frère réclame souvent cette histoire. Fin de citation. Petit garçon, Uri Orlev rêve tout d'abord d'être conducteur de tramway. Tramway, à cause de la clochette qu'il faut agiter sans cesse. Puis policier, c'est-à-dire être agent de la circulation et régler le mouvement des voitures. Et s'il ne rêve pas tout de suite d'être écrivain, il adore raconter les histoires pour lui-même et pour les autres. Le secret de papa. Je m'éveille. Papa est assis sur le sol. Une bougie brûle à ses pieds. Je suis très fatiguée. Je sors d'un rêve qui n'est pas terminé. Je bâille et voudrais y retourner pour en connaître la fin. Quelquefois ça marche, si on ne se réveille pas complètement. Maman dit qu'on peut y arriver à condition de ne pas regarder vers la fenêtre. Mais la fenêtre n'est pas éclairée. Dehors, il fait nuit noire. Quelque chose m'intrigue. Que fait donc papa? Il manipule de petits objets en métal. Je reconnais le bruit. Il les nettoie, les examine. C'est alors qu'il se rend compte que je suis assis sur le lit. Son premier geste est de tout couvrir avec ses mains, comme s'il voulait me cacher un secret. Mais j'ai vu tout de suite ce que c'était. J'ai vu la crosse et la détente. Papa a un pistolet. Je m'éveille tout à fait. Va-t-il tuer les Allemands ? Maman n'était pas rentrée. Elle était allée rendre visite à des membres du mouvement qui habitaient dans le ghetto A, et elle n'était pas revenue. Cela faisait déjà une semaine ou 10 jours. Je ne comptais plus. Ça me rendait trop triste. Au début, nous nous étions dit qu'il l'avait envoyée travailler dans les environs. Puis nous avons cru qu'il l'avait emmenée quelques jours dans un lieu plus éloigné. En fin de compte, nous pensions qu'elle était partie en Allemagne. Mais la Croix-Rouge ne distribuait que très peu de courriers en provenance d'Allemagne et on ne pouvait pas savoir si c'était des messages dictés par quelqu'un ou devraient l'être. Papa me regarda un instant, ôta ses mains du pistolet démonté. J'ouvrais déjà la bouche pour parler, mais il posa un doigt sur ses lèvres. Peut-être à cause de la famille Grün, qui dormait dans la chambre voisine de l'appartement que nous partagions. Je sortis du lit, m'approchai de lui et m'assis à côté de la bougie. « C'est un vrai pistolet ? » demandai-je en chuchotant. « Oui, » dit-il avec un sourire. Je le savais, bien sûr, mais c'était dur à croire. Aucun de nos voisins ne possédait de pistolet. Même s'il y avait des gens avec des armes dans le ghetto, ils étaient peu nombreux, peut-être deux ou trois. À vrai dire, je l'ignorais complètement. On ne parlait pas de ces choses-là devant les enfants. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je le nettoie, je le graisse, au cas où j'en aurais besoin. Tu vas tuer des Allemands ? Oui, dit-il. Je fus saisie de frayeur. Demain ? Non, ne t'inquiète pas. Papa n'avait pas eu l'intention de me révéler le secret du pistolet. Pourtant, je l'aidais dans tous ses travaux. Pour construire l'abri avec la famille Grune et même pour fabriquer notre petite cachette en planche dans le grenier. Sans parler des bricolages à la maison. Mais une fois que j'eus découvert son secret, il accepta, sans hésiter, de m'apprendre à démonter le pistolet, à le nettoyer, le graisser, à bien l'essuyer avant usage. « Et comment sais-tu cela ?»« J'ai été soldat autrefois, » répondit papa. Bah, « Tu me l'as jamais raconté. »« Bon, c'était pas une période exaltante, » dit papa, « même si j'ai eu la chance d'être engagé dans l'équipe de boxe. Mais les autres juifs étaient malheureux là-bas. Cela me faisait beaucoup de peine. » C'était un Beretta de marque italienne qui contenait 7 balles. Papa les ôta une par une pour me les montrer. « Je vais t'apprendre à tirer, » dit-il brusquement après un long silence. Aujourd'hui encore, si on me réveillait en pleine nuit, je serais capable de réciter d'une traite, sans omettre un seul mot. Beretta italien 1934, diamètre 9 mm, longueur du canon 92 mm, longueur totale 149 mm, poids 680 grammes. Il nous arrivait de passer la nuit assis par terre, tandis que je démontais puis remontais le pistolet. Papa m'a pris à l'armée, à ôter le cran de sûreté. Nous procédions par ordre. Ensuite, il m'a pris à viser. Il était allongé en face de moi, un disque de carton à la main. Je visais le trou minuscule qu'il avait dessiné au milieu. Puis, j'appuyais sur la détente. Bon ! Papa voyait à travers le trou si j'avais fait mouche. « Un jour viendra, disait-il, où ces leçons te sauveront la vie, Alex. Qui sait quand et comment se terminera la guerre ?» Ceci est un extrait du premier chapitre du premier roman de Uri Orlev, donc disparu cet été à l'âge de 91 ans, en juin 2022. Le roman s'intitule « Une île rue des oiseaux » Rehov Be'ir Tziporim. Alex a 11 ans, petit garçon juif. Il voit peu à peu le monde s'écrouler autour de lui, dans le ghetto. Sa mère est arrêtée, ses meilleurs amis ont disparu. Et maintenant, c'est son père que les Allemands emmènent avec tous les habitants de la rue. Et Alex, qui grâce à son père a pu se cacher dans une maison abandonnée, se retrouve seul. Tout seul dans le ghetto entièrement vide. Tout seul avec son angoisse, ses terreurs, la faim, le froid. Son père, en partant, a eu le temps de lui crier « Attends-moi, je viendrai te chercher. » Et Alex organise son attente, son existence au jour le jour, si précaire et si menacée soit-elle. Il va s'aménager une cachette, une sorte d'île, comme un petit Robinson, laissé tout seul dans ce ghetto, cette île qui se trouve rue des oiseaux. Il va chercher un peu de nourriture, une couverture, des vêtements dans les maisons maintenant désertes. Et comme le Robinson de Daniel Defoe, il a lui aussi son compagnon. Ce compagnon n'est rien moins que Neige, une souris blanche qu'il va savoir apprivoiser et à qui il va confier ses espoirs et ses peines, des espoirs qui vont s'amenuisant au fur et à mesure que passent les jours, les semaines et les mois. J'avais une souris blanche, la seule qui soit restée en vie de toutes celles que j'élevais à la maison. Pas la maison d'avant la guerre, la maison du ghetto, avant qu'il n'ait commencé à emmener les gens. Il y a ceux qui détestent les souris et ceux qui en ont vraiment peur. Mais une souris n'est pas très différente à élever d'un chat, d'un chien ou d'un oiseau. Sauf que c'est petit, ça mange peu et ne vous cause aucun souci. à condition bien sûr de savoir s'en occuper. Le vieux Baruch, lui, détestait les souris. Il ne l'avait pas confié tout de suite. D'abord, il m'avait dit que c'était pas la peine d'apporter la mienne lorsque je venais me cacher dans son entrepôt. Elle pourrait s'enfuir et je ne la retrouverais plus au milieu des colis. Je lui avais expliqué que la souris venait vers moi lorsque je la sifflais. Je pouvais lui faire une démonstration. « Non, non, » avait-il protesté. « Bizarre, il n'avait pas peur des Allemands. » Alors il avait prétexté que les souris grises dévoreraient la mienne. Mais pourquoi? Parce qu'elle est blanche. Peut-être que justement elle deviendrait amie avec elle. Alors tu ne la verras plus. Elle se trouvera un mâle et ne reviendra pas. Mais c'est peut-être un mâle. Alors il se trouvera une femelle. Je laissais donc la souris blanche à la maison. Je l'avais appelée Neige. Le matin, je lui expliquais que je reviendrais avec papa, tard dans la soirée, qu'elle ne s'inquiète pas. Papa riait de me voir parler à une souris. Je lui répondais, « Toi aussi, tu parlais toujours à Rex. » Rex était notre chien. Nous l'avions emmené avec nous au ghetto, il était mort de vieillesse. Neige n'était pas une simple souris, elle était très intelligente. Par exemple, lorsque toutes les autres souris de la cage attrapèrent une maladie et en moururent, eh bien elle ne mourut pas. Papa déclara qu'elle était immunisée, en tout cas elle se comportait toujours un peu autrement que ses compagnes. Je ne savais pas exactement ce que j'aurais fait sans elle, des journées entières, du matin au soir, seule, dans notre cachette du grenier ou en bas dans l'abri. Combien de temps peut-on passer à lire? Et puis papa ne m'apportait pas toujours de nouveaux livres. On peut relire un bon livre une ou deux fois, comme Robinson Crusoe, par exemple, ou Le roi Mathias. Mais on ne peut pas lire tous les jours, toute la journée. Alors je jouais avec Neige. Je cachais sa nourriture, la laissais chercher. Elle connaissait le sifflement qui ouvrait le jeu. Elle commençait à tourner dans tous les sens en reniflant et finissait toujours par trouver, enfin, presque toujours. Si je cachais la nourriture en plusieurs endroits, elle ne reculait pas devant l'effort, repartait chaque fois à la recherche du butin. Elle s'enfonçait dans les tas de chiffons et les coussins. Et même lorsque je lui parlais, ce n'était pas exactement à elle que je m'adressais. Évidemment, je savais qu'elle ne pouvait pas comprendre. Simplement, c'était un peu plus agréable que de se parler à soi-même, comme les fous. Je lui racontais que la guerre se terminerait bientôt, que je lui achèterais une belle cage, je lui amènerais des amis, des mâles et des femelles, puisque je ne savais pas si Neige était il ou elle. Et voilà donc cette amitié avec cette petite souris. Et puis, petit à petit, je vous invite non seulement à lire Une île rue des oiseaux, édité chez Stock, mais également à le donner à lire à vos enfants, qu'ils aient 10, 11, 12, 13, 14 ans, voire plus. C'est vraiment un très très beau roman de comment survivre quand on est un petit garçon de 11 ans dans un ghetto qui a été évacué de ses habitants. Je précise qu'il n'y a absolument rien d'horrible dans ce texte. Bien sûr, la maman a disparu, mais on n'évoque absolument pas les camps d'extermination pour la bonne raison que l'enfant ne peut évidemment pas s'en douter. Un autre des nombreux romans qui a été traduit en français, roman de Uri Orlev, s'intitule « Cours sans te retourner » chez Castor Poche. Et il s'agit de l'histoire de Srulik, qui en fait était Yoram Friedman, et qui était un enfant que Uri Orlev a bien connu plus tard en Israël, puisqu'Uri Orlev a fini donc par arriver en Palestine, comme je l'ai dit au début de l'émission, Palestine de 1946 avec son frère, Uri Orlev, où il s'est installé, où il a eu des enfants et des petits-enfants. Et donc la vie de Yoram Friedman est relaté, bien sûr, est romancé dans ce roman de Orlev, « Cours sans te retourner », donc paru en 2003 chez Castor Poche. Et le petit Srulik, diminutif yiddisho-ashkenaz de Israël, Israël, le petit Srulik demeuré tout seul, est obligé de trouver le gîte et le couvert, et puis surtout de cacher son identité juive. Et il erre dans la campagne, dans les forêts, et l'automne arrive, et bien sûr avec l'automne, le froid et la faim, même s'il est obligé de manger à présent exclusivement des champignons. Et la neige arrive, la bise froide qui lui cingle la figure. Et dans ce village, il rentre dans une cour. Il va s'abriter dans la grange, il s'enfonce dans le foin où il fait un peu plus chaud et il s'endort. En ouvrant les yeux, il sort de la grange, il frappe à la porte de la maison et il voit le visage d'une femme. Jamais il n'en avait vu d'aussi beau. Et puis tout s'obscurcit. Il ouvrit les yeux, il était couché sur un matelas douillet, et il vit la belle femme dont il avait rêvé, au-dessus de sa tête, le plafond d'une maison. Il comprit que ce n'était pas un rêve. « Tu es réveillée ?»« Oui, madame. » Une lessiveuse posée sur le fourneau dégageait un nuage de vapeur. « Elle veut me faire cuire, » songea-t-il. La femme ôta la lessiveuse du feu, elle versa l'eau chaude dans un baquet, le déshabilla. « Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?» se demanda-t-il, désemparé. Elle examina ses blessures en hochant la tête de temps en temps. Il entra dans le baquet. L'eau était si chaude qu'il poussa un cri. Elle le frotta énergiquement, sans lésiner sur le savon. Finalement, elle le sortit, le sécha, le coucha près du poêle et lui enduisit le corps d'une pommade noire. Ses plaies le brûlaient. Il gémit en suffoquant. Soudain, elle disparut. Allait-elle jamais revenir ? Elle reparut, rapprocha le matelas du poêle, rajouta du bois. « Maintenant, elle va me brûler vif, se dit-il. » Mais elle se contenta de le couvrir d'une couverture. Et en dépit de la souffrance, il s'endormit, le cœur gonflé d'espoir. Il ne fut pas déçu. Les jours suivants, la femme le soigna avec un tel dévouement qu'il fut bientôt guéri. Elle lui donna de bons vêtements chauds. Et ainsi de suite, le petit Srouli, qui se fait donc appeler Yurek, va effectivement être soigné par cette femme dont le mari et les deux fils sont partis se battre chez les partisans. Et elle avait également une fille que les Allemands ont torturée et pendue dans la forêt. Et le petit Srolik Jurek va trouver un petit peu de réconfort. Cours sans te retourner a d'ailleurs fait également l'objet d'un film du même nom. Je voulais, avant de terminer, ajouter l'ouvrage intitulé « Poème » écrit à Bergen-Belsen en 1944, en sa 13e année. Des poèmes que Uri Orlev a conservés précieusement pendant plus de 50 ans dans un petit carnet de poche à couverture rouge où il avait recopié les poèmes écrits au camp. Des poèmes qui témoignent de cette vitalité de l'enfant confronté à la barbarie et de la place unique, évidemment, de la poésie dans ce dialogue secret qu'il entretient avec lui-même. Ce recueil a été donc traduit par Uri Orlev lui-même, et je ne peux que vous engager aux éditions de l'Éclat à acheter à vous procurer ce recueil de poèmes de Uri Orlev, merveilleusement traduit par Sabine Huyn, elle-même écrivaine, poétesse et traductrice. C'était donc cet hommage à Uri Orlev, 1931, Varsovie, 2022, Jérusalem, cet immense écrivain en hébreu pour la jeunesse.